Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Citeclan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction.
Bienvenue dans Star Wars en direct, édition collector. Je suis Sébastien Galeno et je suis toujours en compagnie de Raphaël Gonneau. Salut Raphaël.
Bonjour tout le monde, salut à toi Sébastien.
Alors, on a terminé notre tour des grandes marques des licences Star Wars. Donc on va passer à d'autres thématiques et on a décidé de vous mettre à contribution. D'ailleurs, vous avez beaucoup participé, on vous remercie. Aujourd'hui, on va vous parler de nos Graals et des plus belles pièces de nos collections et de l'histoire qui tourne autour de ça. En attendant, Raphaël, un petit what's up depuis notre dernière émission qu'on a enregistrée la semaine dernière.
Alors, ça peut paraître bizarre, mais j'ai racheté des R2-D2. C'est les R2-D2 d'Halloween qui vont sortir prochainement pour Disney. En fait, c'est un personnage R5-D4 de mémoire, qui est noir et en fait, il vient fluo la nuit. Voilà, tout simplement. J'avais dit que j'achetais plus rien, enfin, j'ai continué d'acheter tout le temps.
Eh ben moi, concernant Star Wars, j'ai fini mon marathon un Star Wars tous les jours. Donc j'ai fait les 8 épisodes en 8 jours, voilà. C'est pas mal, c'est la première fois que je le faisais, étonnamment. Et j'ai pris beaucoup de plaisir, et puis ça permet de voir les incohérences qu'il y a entre les films aussi, et l'évolution visuelle qu'il y a, donc c'était assez sympa. Et maintenant je vais m'attaquer au spin-off ce soir, voilà.
C'est vrai ?
Oui, voilà. Mais aucun achat Star Wars pour le moment, parce que c'est pas trop la période. Eh bien écoute, sans plus attendre, on va partir en hyperespace.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Alors Raphaël, on va dans un premier temps parler de nos top 3 de nos pièces de collection à tous les deux.
Ouais.
Et après, on va commenter les Graals de nos auditeurs qui nous ont bien gentiment envoyé un petit message sur la page Facebook de Star Wars en direct.
Ouais, c'est super sympa en tous les cas. Merci beaucoup pour le retour.
Voilà. Donc on va faire un top 3. On va commencer par notre numéro 3 et puis jusqu'à notre grand Graal numéro 1 à la fin.
D'accord. Voilà.
Raphaël,
je commence.
Honneur aux anciens, je te laisse la
honneur
parole.
Honneur aux vieux.
Dis-nous, quel est ton troisième meilleur Graal?
Alors c'était en 1825. Je m'en souviens encore, la guerre était dure, le temps était humide, et j'étais à Essen pour acheter un Attacus. Et oui, célébration Europe numéro 2, Essen. Attacus sortait une statue, un Cody, dans l'ordre 66, en bronze Ali. Donc c'est une matière un peu plus couleur bronze, comme on a dit, c'est une matière un peu plus lourde. C'est une réplique en fait de la série qui a été faite au préalable par Attacus. Et en fait, ce bronze Ali est particulier parce que il y avait un tirage limité, et dans le tirage limité, il y a un problème dans les boîtes, en fait. Il y a deux boîtes qui ont été mal colorées, qui sont dégueulasses. Et le gars qui... j'allais dire une bêtise. Le sculpteur me disait, il n'y a que des cons fans de Star Wars qui m'achèteront des boîtes pourries. Ben, je lui dis, figure-toi, ce con dégueulasse, il est en face de toi, je t'achète la boîte pourrie. Donc j'ai pris le Cody le plus moche de la boîte la plus pourrie, avec des insultes genre, il faut arrêter d'acheter Star Wars, il faut arrêter d'engraisser Lucas, sur ma belle boîte, écrit en main et en lettres d'argent, par le sculpteur lui-même.
C'était vraiment écrit ça sur la boîte ?
Ça a été écrit à la main par le sculpteur et d'autres personnes qui travaillaient dans différents univers de la science-fiction, qui m'ont dégoûté à vie sur ma belle boîte. Et c'est le meilleur souvenir que j'ai, parce qu'en fait, ni plus ni moins, c'est que c'est aussi un pied de nez à tous les collectionneurs, c'est que... En fait, on achète pour acheter. La pièce est vraiment très très belle. Mais en fin du compte, elle serait plus jolie si elle était exposée. C'est ce que je dis toujours à mon épouse, dans l'endroit visible où les gens viennent et la voient, plutôt que dans un carton. Et en fait, ça reste toujours une belle pièce, que cette histoire me va toujours travailler. En fait, et acheter la pièce pour acheter la pièce, parce qu'elle était superbe. Et le sculpteur m'avait fait une petite dédicace dessus. Et à chaque fois que je vois ce carton, je me dis, quand je vois les dédicaces qui ont été faites dessus, je me dis, je suis cet abruti de collectionneur qui a acheté pour acheter, sans avoir une seule fois vu l'idée de l'exposer pour le montrer aux autres. Et ça, si tu veux, c'est le truc qui m'a le plus marqué, dans le sens où le produit lui-même est une belle facture, le produit est propre, la série était limitée en peu d'exemplaires, je crois qu'il y avait 99 exemplaires, tout avait été vendu à l'époque, donc moi j'avais pris l'exemplaire et tout, et je me rendais compte à travers ça que c'était la fête de posséder, tu sais, je m'étais jeté dessus tout de suite pour l'avoir, d'accord, au cas où quelqu'un allait le racheter et tout, c'est, je l'avais caché pas qu'on me le vole, alors que mine de rien, bah là il est dans un grenier, il prend la poussière à 25 km de chez moi. Mais ça reste une de mes pièces fétiches, parce que son histoire est assez intéressante. Et l'histoire du sculpteur qui disait qu'il aussi était traumatisé par la sculpture, disant que le travail qu'il avait fourni n'était pas celui-là que Lucas avait validé à l'époque. Et comme pour plusieurs personnages, il avait montré tous les prototypes qu'il avait fait, et il regrettait vraiment que Lucas, à l'époque, s'était orienté plus vers des poses statiques, moins en mouvement, comme était le Dark Vador 1. Qui prend une des plus belles pièces, et je regrettais un peu, il regrettait un peu cette chose-là, il avait écrit sur la dédicace en fait qu'il regrettait toutes ces choses-là, et une autre personne qui était licenciée, dont je ne donnerai pas le nom, parce qu'il est toujours licencié avec Star Wars, avait écrit un mot aussi en disant qu'il regrettait une fois de plus qu'on ne laissait pas libre cours à leur imagination, qui a été contrainte par rapport à beaucoup de choses, mais que c'était Star Wars, donc Star Wars pardonnait tout, voilà. Donc cette pièce est toujours restée, quoi. C'est le Bronzali de l'art 66, fait par Atacus, pour Essen Célébration 2, qui est pour moi la troisième plus belle pièce que j'ai d'un point de vue du cœur. Hein. Voilà.
Eh ben, merci pour cette belle histoire, Raphaël.
Merci.
On sent les sentiments, on sent le bonheur. Tu l'as encore cette pièce chez
toi,
j'ai
toujours
vendu.
Toujours. Ah, non, non. Dernières... Voilà. Non, alors, j'ai vendu. Alors, ce que je disais, grosso modo, on a fait le compte, quoi, t'as à peu près 80% de ma collection a été vendue. D'accord. Et les 20% qui restent vont encore. Là, je vais encore lisser certaines choses. Pour faire des choses plus présentables en fait, plutôt que stocker dans des cartons, les pièces que je gardais vont être exposées, voilà.
Très bien. Et ben moi, ma troisième meilleure pièce, elle est liée à un des personnages que j'aime beaucoup dans la saga Star Wars, c'est-à-dire Han Solo, parce qu'il s'agit de ma Hot Toys A New Hope de Han Solo que j'ai acquis en 2015, donc c'est assez récent. Et pourquoi c'est dans mon top 3, c'est en fait avant sa sortie je suis vraiment limite fétichiste hein, de ce personnage et je voulais avoir la plus belle pièce possible du personnage qui existe. Alors j'avais déjà la version Atacus qui a une superbe pose mais au niveau du visage, ben c'est pas non plus Harrison Ford, hein, faut pas se mentir. Même si la pose est parfaite, j'ai beaucoup de d'estime pour la version Atacus que j'avais eu beaucoup de mal à trouver à l'époque. D'ailleurs, je me souviens. Après, j'ai eu mes figurines d'Han Solo qui étaient c'était les Vintage Collection, enfin non, c'était les VOTC, c'était les Vintage Original Trilogy Collection qui étaient sortis. En 2004, il me semble, où c'était un peu les premières versions avec des blisters vintage de figurines hyper articulées Hasbro, 10 cm. Donc cette figurine-là, je l'adorais. Après, il y avait les Black Series Hasbro qui sont arrivés. Et, mais voilà, c'était des belles pièces d'Han Solo, mais c'était pas la pièce parfaite d'Han Solo. Et j'ai vu que Hot Toys s'était lancé dans la licence Star Wars, ils avaient sorti Luke Skywalker, mais juste Luke, et pendant un an, après, on n'avait rien eu, quoi.
Ouais.
C'est après que la déferlante est arrivée. Et au moment où le Han Solo est sorti, en fait, j'avais pas l'argent pour, parce que c'est quand même 300€, hein, un Han Solo. Et ce qu'il faut savoir avec les Hot Toys, c'est qu'en fait, si on les achète pas dans les 6 mois, ça devient très vite plus compliqué de les avoir. Mais moi, à l'époque, c'était la première Hot Toys Star Wars que j'achetais, et du coup, j'avais pas cette notion de... faut quand même se dépêcher un peu pour avoir une pièce, quoi, quand ça sort. C'était au moment de Noël, où là, pour le coup, j'avais un peu de sous pour me la procurer. Et là, ça a été très 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 compliqué de la trouver, parce que aucune boutique française ne la vendait, tout était sold out. Et je m'étais dit, c'est pas possible, il y a la plus belle pièce de Han Solo qui est sortie, je vais pas pouvoir me l'acheter, j'étais vraiment dépité. Mais j'ai fait plein de recherches, vraiment, j'ai passé des heures et des heures sur internet. Et je l'ai trouvé chez un revendeur américain à un prix assez honnête, qui était de 320€, donc ça, c'était totalement honnête. Et du coup, la livraison s'est faite parfaitement, et même pour me la faire livrer, je me souviens parce que j'avais avec si vous écoutez cette émission, je pense que je suis pas le seul à avoir des problèmes avec Chronopost, UPS, tous ces gens-là.
Une grande histoire d'amour.
Voilà, et vu qu'à chaque fois j'ai des problèmes de livraison avec Chronopost, UPS ou DHL, là j'avais dit, écoutez, je la récupère moi-même à votre entrepôt. Et l'entrepôt, il était près de la Défense à Paris, il a fallu que je fasse un parcours du combattant pour arriver à l'entrepôt à 19h30 en hiver, sous la pluie, pour la récupérer. Et je l'ai récupéré, et puis j'avais sous les yeux ce qui est encore aujourd'hui pour moi la plus belle pièce physique sculptée de Han Solo aujourd'hui. Hot Toys, on peut pas faire mieux. C'est tellement au-dessus de tout, tellement au-dessus de Side Show, d'Atacus, de Gentle Giant, tout ça, c'est vraiment. C'est parfait. Je veux dire, rien à redire. Donc elle trône dans mon appartement depuis maintenant 4 ans et elle prend un peu la poussière. C'est pas facile de nettoyer Hot Toys avec la poussière, mais voilà, c'est la plus belle pièce de mon personnage préféré. Et donc voilà, si l'appartement prend feu un jour, ce sera dans les choses que je prendrai en priorité. Voilà.
Bah c'est bien.
Voilà.
C'est bon à savoir ça, que tes priorités sont des jouets et pas ta femme.
Non, mais je parle de ma collection.
Hein ? C'est beau,
je
ça.
Je parle de ma collection. Voilà.
Allez,
à ton tour.
Ouais, le numéro 2. Numéro 2, en fait, c'est plus un objet technique. En fait, c'était le vidéoprojecteur R2-D2 à l'époque que j'avais, grâce à Christophe, mon copain de chez Toyzone. Et c'était vraiment un bon souvenir, ce petit R2 vidéoprojecteur, parce que non seulement il était extraordinaire par rapport à toutes ses fonctions, il projetait une belle image, et on a dû s'en séparer à un moment où on avait besoin d'argent, de liquidité pour acheter d'autres produits Star Wars pour la revente. Et en fait, j'ai pas perdu l'argent, je l'ai revendu. Mais en fait, cet objet-là, si tu veux, c'était assez poignant, parce que non seulement il était vachement interactif, la télécommande ressemblait à un vaisseau, au vaisseau de d'Han Solo, au Faucon Millenium. Donc tout un ensemble était assez vivant. Tu aurais un truc au vidéoprojecteur, il se projetait automatiquement, il se cabrait, il mettait. T'arrivais à calibrer l'image sur ton mur, t'avais une image de 2 mètres de large, de bonne qualité. Le seul inconvénient, c'était qu'il rentrait en chaleur de façon incroyable. C'est-à-dire que les mecs, tu regardais un film 2 heures, tu faisais cuire un plat mexicain dessus tellement que c'était chaud. Franchement.
Et ouais, ça fait du bruit en plus. Hein.
Et ça faisait un boucan faramineux. Voilà. Donc il avait peu d'heures de vision, j'ai dû l'utiliser pour 2 films, je crois qu'il avait même pas 4 heures de visionnage. Et puis j'ai dû m'en séparer, voilà, c'est une des premières choses que je me suis séparé dans ma collection. Parce qu'en fait, l'objet en lui-même était vraiment extraordinaire, mais une fois de plus, l'usage faisait que je ne l'utilisais pas, quoi. Mes enfants, pour jouer, avaient leur grosse télé pour jouer, leur console vidéo, puis le vidéoprojecteur pour projeter dans leur chambre s'ils voulaient jouer. Donc le R2-D2 ne permettait pas de faire cette connexion-là avec leur console. Donc du coup, j'ai préféré m'en séparer. Alors, j'ai un peu triché, j'espère qu'on m'entend pas. J'ai gardé le mode d'emploi, en fait. Et c'était vraiment... Le produit lui-même, à l'époque, était assez innovant, hein, parce qu'on n'avait pas déjà de vidéoprojecteur porté, je veux dire, comme ça, et mobile, sur un produit marché. C'était à cette époque-là où les vidéoprojecteurs ont commencé à être démocratisés. Ça veut dire qu'on les avait dans les plus petits formats. On les avait... Avant, ça coûtait très très cher. Là, les prix avaient sensiblement baissé. Même encore maintenant, les vidéoprojecteurs Full HD ou 4K sont moins onéreux qu'au préalable. Donc, c'était l'époque où je pense que je l'ai vendu au bon moment. Voilà. On en trouve
avant
plus.
Que ça perde de la valeur.
Non, c'est pas une question que ça perde de la valeur. Avant que la technologie passe dessus, par-dessus, quoi. Voilà. Ouais, c'est juste la technologie qui me faisait peur qu'on passe par-dessus et qu'après elle soit obsolète par rapport à la technologie qui était déjà à l'intérieur. Si je le retrouve, franchement, je crois que je rendrais, mais pas pour faire vidéoprojecteur, juste pour une belle pièce. Et je me dirais, avoir vidéoprojecteur et pas se servir, ce serait peut-être pas la peine de l'avoir. Donc, et vous verrez que quand je reparlerai de mon 1, vous comprendrez ce discours-là. Ce discours qui consiste à dire que garder pour garder et pas le montrer, je crois que c'est aussi hypocrite que certaines choses. Et je pense que, quelque part, il faut avoir une belle pièce qu'on présente plutôt qu'en avoir 1000 qu'on présente pas. Voilà, je pense aussi. Parce que, comme dit toujours, il ne faut pas chercher le retour des gens sur les objets. Ce qu'on évoque souvent, c'est qu'une personne ne va pas comprendre un blister. Dit « Oh, mais c'est quoi ça ?» Il dit ça, c'est « Oh, bah, c'est moche et ça vaut des milliers et des milliers, si tu veux. » Alors qu'à côté, un truc que tu trouves à 1 euro chez Babou, le mec qui est dessus, il dit « Ah, mais c'est génial, t'as trouvé ça où ?» Et tu ne peux pas lui dire « chez Babou, dans le coin, quoi, voilà. » Et c'est ce décalage-là qui a fait que mon choix c'est un peu mieux orienté. Peut-être aussi, je viens commencer à mûrir. Pas que je dis pas que les gens mûrent pas assez vite, mais moi j'ai bientôt 50 ans et je commence à devenir adulte, donc t'imagines un peu le décalage. Donc c'est vrai que partant de là, le fait de m'en séparer m'a fait aussi un bien. C'était plus une psychanalyse, je crois, qu'autre chose. Mais le produit en lui-même, franchement, pour l'époque, c'était une Rolls, pour moi. J'avais jamais vu quelque chose aussi technologique et aussi pertinent et visuellement et techniquement, c'était vraiment incroyable. Voilà, pour moi, c'est mon numéro 2, le vidéoprojecteur R2D2. Voilà.
Eh bien, écoute, moi, ma deuxième pièce préférée, c'est une pièce dont tu as parlé tout à l'heure, c'est la statuette de Atticus de Dark Vador. Et voilà, le premier Dark Vador, pas le deuxième, hein, parce que le deuxième est beaucoup moins bien.
Ah, bah, pièce préférée, je l'ai vendue, j'aimerais toujours l'avoir vendue celle-ci.
Moi, je l'ai encore, ouais. Elle est d'ailleurs sous mes yeux à l'heure actuelle. Non, alors en fait, c'est que quand Atticus est arrivé à un moment de ma collection où je m'étais dit, ah bah tiens, les figurines à se brosser, sympa, par contre, ce serait bien que tu aies des vraies belles pièces collector. Et Atticus était un peu les premiers sur le marché, hein, international même, j'ai envie de dire, à faire ça, c'était parmi les premiers du moins.
Tout à fait, là-dessus, je suis d'accord avec toi, alors là, il n'y a aucun souci. Pour moi, c'était les ceux qui ont testé le terrain, voilà.
C'est après qu'ils sont arrivés toutes les autres marques. Toutes les autres marques qu'on connaît.
Ma copier-coller.
Et du coup, j'avais déjà eu. Il faisait, il me semble, une collection toutes les ans.
Ouais.
C'est ça.
Une série, ouais.
Il y avait une série tous les ans qui sortait. Dont là. Donc la première, c'est. J'ai eu Boba Fett.
Ouais, c'est ça.
Et la deuxième, je voulais vraiment. Il y avait ce Dark Vador qui était sorti justement et j'ai trouvé la pose vraiment fabuleuse parce que il est vraiment en train de...
Non, il est vivant.
Ouais, il est en position en train de...
De marcher quoi.
De marcher, t'as l'impression qu'il...
Ouais, il est ample, il en cause quoi.
Voilà, il est en mouvement. Moi, ce que j'aime bien, c'est que le sabre est pas allumé, du coup ça fait vraiment un... T'as vraiment l'impression que... Enfin, toi, quand les sabres sont allumés, je trouve que ça, tu perds tout de suite en réalisme en fait.
Ouais.
Et là, pour le coup, il est éteint, donc il n'y a pas de souci. Au niveau de la sculpture, il y a, moi, je vois aucun défaut. C'est parfait de la tête aux pieds, quoi. Et je l'ai eu à Noël. Alors, c'est toujours à Noël, hein, souvent qu'à ce moment j'ai mes plus belles pièces. C'était à Noël 2004 ou 2003.
Ouais, c'était la série c'était la série 1 ou la série 2, je ne sais plus.
C'est la série 2.
C'est la série 2, ouais. La série 1, c'est le R2 des deux, chérie.
Ouais. Et pour le trouver en boutique, c'était très, très, très compliqué.
Bah, octobre 2001.
C'était. Voilà, 2001. Ça date. C'est encore plus vieux que ce que je pensais. C'était très très difficile de le trouver en boutique. Surtout qu'à l'époque, c'est pas moi-même qui m'achetais mes cadeaux de Noël, c'était mes parents. Alors je vous laisse imaginer à l'époque, mes parents appelaient les boutiques d'import en France pour trouver un truc Star Wars.
C'était introuvable à l'époque.
Leur truc. Et cette année-là, je passais dans ma famille à Grenoble Noël. Et il y a une boutique un peu de produits. Enfin, il y avait à l'époque une produit de boutique d'import, de trucs comme ça. Et ils m'ont dit, bon, on passera, on va bien voir si elle y est, et puis si elle y est, on te la prend. Et donc on est arrivé une semaine avant Noël à Grenoble et tout, puis mes parents passent à la boutique, et ils reviennent, ils me disent, bon, désolé, Sébastien, il n'y était pas, on t'en offrira une autre, que tu voudras, donc voilà, il n'y a pas de problème. Je dis, bon, ils avaient fait la démarche, ils avaient recherché, donc je n'en voulais vraiment pas, il n'y avait pas de souci. Et puis, le 24 au soir, j'ai un gros carton, et puis qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a le Vador 1, voilà. Et donc c'est une super surprise que m'avaient fait mes parents. Je pensais vraiment pas l'avoir, parce que c'était vraiment introuvable. Et encore aujourd'hui, c'est une des plus belles pièces du personnage, si ce n'est même pour moi la plus belle pièce du personnage. Et il prend la poussière maintenant depuis 2001, tu me dis, donc ça fait 18 ans. Et au-delà de ça, j'ai parce qu'elles sont numérotées à 1500 exemplaires. Et moi j'ai le numéro 1134, bon. C'est pas 1138 comme THX, mais je suis à 4 numéros près, donc c'est pas mal.
Alors, du blanc correcteur, tu réécris le numéro. Hein.
De quoi?
Avec du blanc correcteur, tu réécris le numéro.
Ouais, même au crayon mine, hein, c'est fait au crayon mine, tout ça. Ouais. Donc y a pas de souci, mais bon, je suis très content du numéro, et puis elle trône avec entre Boba Fett, le Sand Trooper et Han Solo. Et voilà, mes parents qui sont vraiment pas fans du tout de Star Wars et tout, qui sont pas fans du fait que je collectionne, c'était vraiment le plus beau cadeau qu'eux m'aient fait. Du coup, au-delà du fait qu'elle est superbe, sentimentalement, c'est... cette pièce a une belle valeur.
Non, voilà. C'est une très belle pièce.
Et je ne la revendrai jamais.
Ouais. Faut jamais dire jamais. Mais tu la revendras
si, là,
pas.
Je peux le dire. Voilà. Bah écoute, Raphaël, à ton tour.
Alors,
pour ta pièce numéro 1.
Ma pièce numéro 1, alors, ma pièce numéro 1, c'est pas par rapport au produit lui-même, c'est l'histoire du produit. C'est ce que je dis souvent, parce que tous nos produits ont une histoire, mais alors celle-ci, une histoire un peu particulière. Un jour, par le pur des hasards, je vois une annonce chez un vendeur de voitures américaine. Comme ça, je cherchais des pièces moto et auto pour un copain qui a une voiture américaine un peu particulière. Et en même temps, je tape Star Wars. À chaque fois que je sors un site, je tape toujours Star Wars pour voir ce qu'il y a. Et là, d'un coup, je tape Star Wars, puis je vois Pepsi Color, épisode 1, Star Wars. C'est quoi ça? Alors, je clique sur la photo, je vois la photo, je vois une espèce de pack réfrigéré, on met des glaçons dedans, une forme de dôme de R2-D2, épisode 1, et je me renseigne sur Internet. Oui, en fait, c'est Pepsi Cola qui avait fait des bacs à glace à l'échelle d'un R2-D2, où tu mettais des glaces dans une caisse en plastique, tu passais ta main dans le dôme et tu prenais tes boissons Pepsi. Or, je vois ça, je dis, le mec a dû se planter parce que en France, ça se trouve pas. Donc, j'envoie le mail au gars, je lui dis, voilà, j'achète des pièces auto pour mon copain, j'achète des pièces auto pour moto pour mon pote, puis je dis, est-ce que vous l'avez toujours ce truc-là? Le mec, il dit, oui, je l'ai là, j'arrive pas à le vendre. Bah, j'ai fait, pourquoi? Il me dit, parce que c'est encombrant et les collectionneurs voitures et motos sont pas fans de Star Wars, en fait. C'est dans un conteneur et je l'ai ramené. Bah, je dis, écoutez, moi, je vous le prends. Il me dit, mais j'en ai un deuxième aussi. Ah, un deuxième. D'une autre marque, Brinks, que je peux aussi avoir. Ah, bon, d'accord et tout. Alors, je discutais avec le gars. Déjà, il faut s'imaginer que ça mesure 1m20 sur 1m20 de large. Quoi. C'est un gros truc. Je dis, mais comment il va faire pour me le livrer quoi. Alors, je dis au gars, écoutez, combien vous me le faites? Le mec, il dit, vous savez, c'est des pièces rares et tout. Là, il commence à me baratiner et tout, comme tous les vendeurs. Donc, moi, je pleure comme tous les acheteurs. C'est le jeu d'acteur, tu vois.
Ouais, pour négocier.
Pour négocier, c'est genre. Je crois que le meilleur négociateur que je connaisse, je peux citer son nom, c'est Michel Chevelot. Voilà.
Ah bah Michel Chevelot, que je connais très bien.
Voilà, hein. Pour moi, c'est le meilleur acheteur au monde. Voilà. Le pire vendeur, bon négociateur, mais c'est le meilleur acheteur Chevelot. Au monde. Voilà, pour
sauf quand on est à célébration aux États-Unis, qui parle pas un mot d'anglais et c'est moi qui dois faire le traducteur. Voilà. Mais bon, on s'écarte pas du sujet.
Non, mais une dédicace. Voilà. Je téléphone au gars. Et comme ça, en plus d'un temps, je dis, écoutez, je vais pas mettre plus de 80 euros pour ça. Et le mec, il me dit, mais moi, je les vendais 50 euros les deux. Je dis, ah bon? Alors moi, je dis, oui, les 80 euros, c'était avec les frais de port. Ah, bah, dis si vous voulez. Et je me retrouve à la maison, livré par un semi-remorque, devant ma maison. Deux grosses boîtes en carton, dans du papier à bulles, mais immense, immense. J'ouvre, oh, mes deux trucs sont arrivés. Le problème, c'est où j'allais les mettre. Alors, j'essaie de les planquer dans le grenier. Mais bon... Un jour, ma femme va pour chercher un truc. Elle me dit, c'est quoi ces deux immondes trucs qu'il y a dans le grenier? Alors, j'explique ce que c'est. Elle me dit, je ne peux plus les voir. Alors, qu'est-ce que je fais? Je les transporte dans le grenier du voisin, la maison en face. Mon voisin est très sympa et mon voisin a un petit problème. Il se sépare de son épouse et son épouse. Il dit, tu me verras pour commencer tes deux merdes de poubelles de R2-D2. Donc, ce n'était pas des poubelles, c'est des frigos. Bon. Alors, il me téléphone, il faut venir chercher les frigos. Donc, je cherche les frigos, qu'est-ce que je fais? Je fais les frigos dans ma voiture. Voilà. Puis frigo de ma voiture, dis comment je vais faire, je ne vais pas les ramener à la maison, donc je l'ai laissé pendant 3 mois dans ma voiture, 2 frigos dans ma voiture, avec une couverture dessus, parce que la femme prend pas mon auto, on prend la sienne quand on se déplace. Et puis il est arrivé QC. Et QC il dit bah je vais les vendre. Alors je suis avant un micmac d'enfer à mon époux, je dis écoute, ils sont vendus, tu vois sur là ce que je les ai vendus, je les ramène à QC, ils sont vendus. À QC, je les sors même pas de la voiture. Je dis à ma femme qu'ils sont vendus, puis je les remets chez un autre pote. Dont je ne citerai pas le nom, qui est un peu plus loin de chez moi. Et le jour où on va manger chez lui, il avait sorti les deux trucs dessus, sa femme l'a laissé. Ramène tes merdes, Raphaël, s'il te plaît. Donc à la maison, j'ai mes deux poubelles, mes deux frigos R2-D2, voilà. Qui sont probablement les plus belles pièces qu'elles ont voyagées chez tous mes potes, voilà. Elles ont parcouru, je crois, plus de kilomètres que n'importe qui entre l'Europe où elles étaient fabriquées, les États-Unis où elles étaient envoyées, le Havre où elles sont arrivées dédouanées, qu'elles sont reparties. Je pense que ces poubelles-là, si elles racontaient tout ce qu'elles ont vécu, je pense que ça serait une belle histoire. Et pour en finir, voilà, je les ai donnés.
Tout ça pour ça, en fait.
Ouais, au final, je les ai donnés. Alors, j'ai passé une annonce sur Internet. Je donne mes deux R2-D2. Personne n'a répondu. Alors, du coup, j'étais à l'école de mon fils et j'ai fait gagner la tombola. Voilà. Donc, il y a un mec qui a ticket 2 euros. Il est parti avec deux frigos R2-D2. Mais c'est pas des frigos, c'est des conteneurs à glace.
Qu'est-ce que lui, il en a fait?
Bah lui a dû les massacrer en jouant aux fléchettes, en tapant dessus avec une matraque, ouais, un truc comme ça habituellement.
Si c'était pas un fan.
Ouais, mais pas grave. Mais c'était un moyen de clore cette histoire de truc, mais Vous imaginez pas pour moi le bonheur que c'était que d'avoir ce frigo R2D2 Pepsi Cola. Parce que je me disais, tu te rends compte, t'as un truc que personne n'a en France. Moi, j'étais tellement fier de ça. Peut-être c'est toujours le Saint Graal, tu vois, le truc unique, comme toi, ta signature unique, comme toutes ces choses-là. C'est l'autre Saint Graal qui a ni queue ni tête avec la réalité. Voilà. J'aurais pu sortir une carte, j'ai des cartes vintage R2D2 de très belles factures. J'ai des versions italiennes, des versions espagnoles, des versions anglaises. J'en parlais de celle-ci. Mais celle-ci, je les ai achetées en fait. J'avais l'opportunité d'acheter, j'ai mis l'argent, on me l'a donné. Mais l'histoire du frigo, je te jure, je l'ai fait voyager dans toutes les maisons de mon village pour qu'elle revienne et pour le donner à un gamin qui a dû les saccager dans sa cour et j'aurais dû être là pour le saccager avec lui. Mais bon, c'est une autre histoire. Donc voilà ma pièce 1, parce que pour moi, c'est une des plus belles et plus tristes histoires de ma collection. Et toi alors, cette pièce?
Alors, moi, j'en ai déjà parlé dans un WhatsApp. Ouais. Ouais. Ceux qui ont répondu d'ailleurs à l'annonce de Star Wars en direct se doutent de ce que c'est.
R2D2.
On va retourner sur Han Solo, hein, la thématique Han Solo avec moi, forcément, ouais. Ça me colle à la peau. Ouais. Et non, bah voilà, j'ai eu beaucoup. J'ai, à chaque fois qu'Harrison Ford passe dans notre beau pays, je suis toujours là pour lui tendre une photo avec un Sharpie pour qu'il me la signe. Et donc, la dernière fois que je l'ai rencontré, Harrison Ford, c'était en septembre 2017 pour la sortie de Blade Runner. Mmh. Et je l'avais attendu à la sortie de l'aéroport du Bourget à Paris et avec d'autres amis collectionneurs et il était arrivé sur les coups de... Il devait arriver vers 20h, il est arrivé à 23h, ivre mort. Et moi j'avais préparé 3 photos à faire signer. Parce que moi ce que je veux avec mes dédicaces de Han Solo, c'est que j'en veux 2 par film. Donc j'en avais 2 de New Hope, j'en avais même 3 de l'Empire Contre-Attaque. Et j'en avais une du Retour du Jedi et j'en avais surtout pas du Réveil de la Force. Donc la logique voudrait que j'en fasse 2 du Réveil de la Force et une du Retour du Jedi. Sauf que je m'étais dit, ah, il y a une photo de l'Empire Contre-Attaque qui est magnifique. C'est quand il sort du Faucon Millenium et que Lando lui dit qu'est-ce que t'as osé faire à mon vaisseau. Et Han Solo pointe ses doigts vers lui-même et il fait genre moi. Et j'adore cette expression qu'a Han Solo à ce moment-là dans le film. Et la photo en noir et blanc de ce passage est merveilleuse. Donc j'avais imprimé, mais je m'étais dit la priorité à faire signer Harrison Ford, ce sera les 2 de TFA. Donc c'était une où il est tout seul devant les ruines du château de Maskanata. Et celle où il dit « Chewie, we are home ». Donc Harrison Ford sort, je tends mes 2 photos, les 2 premières photos du Réveil de la Force. Il me signe les 2 photos, nickel, je suis content. J'essaie de sortir la 3e de l'Empire Contre-Attaque. Mais là, bon, bah voilà, c'est trop tard. Il y a déjà beaucoup de monde. Et puis, il en avait déjà signé pas mal. Donc, il en avait marre. Il est rentré dans sa voiture. Donc, je me retrouve avec cette superbe photo que j'adore, que j'ai pas fait signer. Et plus le temps passe, plus je me dis, ah, j'aurais peut-être dû faire une du Réveil de la Force et une et celle-ci. Parce que, franchement, au final, je me rends compte que c'est ma photo préférée d'Han Solo. Et je l'ai pas signée. Donc je l'avais au format 8x10, mais ça c'est les formats américains, donc 8x10 c'est environ 20 cm sur 25 cm ou 27 cm, ouais. Voilà, donc c'est ce format-là. Et puis voilà, bon, bah, je me dis, bon bah allez, la prochaine fois qu'il revient, il est pas revenu depuis, hein, je fais signer celle-ci. Et comme je l'ai dit dans mon WhatsApp, je me marie bien dans un mois, et qui dit mariage dit cadeau de fiançailles aussi.
Waouh.
Donc ma chérie, elle a eu sa belle bague avec un diamant, même
ouh là là.
Une belle dédicace d'Harrison Ford, parce que il faisait à ce moment-là un private signing via une comme office. Alors, c'était avec Coolwater, il me semble, et le groupe Facebook Star Wars Autograph Universe. Ils avaient réussi pour la première fois en fait à faire ce qu'on appelle un sign-in, oui. C'est-à-dire qu'on pouvait envoyer la photo qu'on voulait à Harrison Ford, mmh. Et vous la signer. Contre une modique somme rondelette. Voilà, mmh. On va pas dire le prix, mais cher. Très cher. Et vu qu'en fait, on est l'année où on économisait pour le mariage, ma chérie m'a dit, tu sais, là, j'ai pas trop les sous parce que on économise pour le mariage. Donc, mais l'année prochaine, s'il en refait une, il n'y a pas de souci, je te l'offre.
L'amour n'a pas de prix.
Donc je dis, mais t'inquiète, il n'y a pas de problème, c'est pas pressé, il n'y a vraiment pas de souci. Donc voilà, le temps passe, la signature est passée. Moi j'ai pas de nouvelles de ma chérie, donc je me dis bon, bah, tant pis, voilà, j'attendrai la prochaine fois, mais franchement, je le prends très bien, je relativise totalement.
Et puis, c'était, je suis revenu de célébration. On avait fait un voyage en Pologne et puis on avait quelques jours de vacances sur Paris avant de reprendre le travail avec ma chérie. Et au moment, elle me dit, tiens, cet après-midi, j'ai une soirée shopping, j'ai une séance shopping avec une copine. Je dois te laisser. Ok. En fait, elle me dit, bon, en fait, je t'ai ramené un petit cadeau, mais c'est un petit truc, c'est rien du tout, hein, c'est une broutille. Donc, ferme les yeux et puis je t'apporte ça. Je savais pas du tout ce que ça pouvait être. Et puis à un moment, elle dit ouvre les yeux. Et puis là, elle me tendait la photo d'Han Solo que j'adorais en noir et blanc où il se pointe les doigts sur lui, signée par Harrison Ford, une grande signature en doré et encadrée avec la Marie Louise. Enfin, le truc était déjà parfait quoi. Et en plus de ça, c'est que la photo d'Harrison Ford était dans un format plus grand que celle que j'avais déjà fait imprimer moi. Donc là, elle est au format 11x14, donc en centimètres, ça doit faire, je sais pas, ça doit faire 45 centimètres ou 50 sur... Oui, ça doit faire 50 centimètres sur 35 centimètres. Donc c'est une grande photo et la signature est gigantesque. Et en fait, c'est que quand on fait une...
Ouais.
C'est ma plus belle signature d'Harrison Ford dans le sens où déjà, c'est ma photo préférée. La couleur, c'est en gold, donc ça ressort, mais alors parfaitement. Et au-delà de ça, c'est que quand Harrison Ford vous signe une photo dans la rue, c'est pas la même signature que lorsqu'il est posé sur une table et qu'il a fait vraiment calmement, quoi. Donc la signature est juste visuellement est beaucoup plus belle que la dizaine que j'ai pu avoir dans la rue avant. Et elle est trois fois plus grande aussi. Donc, j'étais aux anges. J'ai même pas réalisé au début. J'étais en mode, non mais... Mais sérieusement, mais je dis, mais t'as fait une folie de m'avoir fait ça et tout, c'était pas raisonnable et tout. Mais voilà, par amour, elle m'a fait ça parce qu'elle avait, elle avait peur qu'il puisse mourir avant, qu'il le refasse une prochaine fois. Voilà, parce qu'il a 70.
On n'y pense jamais ça.
Il a 78 ans, il me semble maintenant, donc c'est ouais. Plutôt jeune. Donc voilà.
Ouais, mais l'alcool conserve.
Bah oui, parce que je vous confirme, hein, quand je le croise, des fois, il a plusieurs grammes, papy. Mais c'est mieux parce que plus il a de grammes, plus il signe facilement. Donc c'est cool. Mais pas la plus belle des façons. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est secondaire. Donc voilà, donc depuis, on a rechangé le cadre, on a mis du verre anti-UV, anti-reflet, pour vraiment que la signature puisse bien rester dans le temps.
Ouais.
Et puis il a fallu trouver un endroit pas exposé au soleil pour l'exposer à la maison. Donc on a trouvé. Et voilà.
Aux toilettes ?
De quoi ?
Dans les toilettes ?
Non, dans mon couloir d'entrée. Voilà, tout simplement.
Ah, génial.
Donc, quand je rentre chez moi et quand je sors de chez moi, c'est la dernière chose ou la première chose que je vois. Donc voilà, donc je suis ravi. C'est vraiment comme le Dark Vador. Hein, c'est au-delà d'être des très très belles pièces en tant que telles, c'est des pièces qui ont une valeur sentimentale parce que ça a été offert par des gens qui sont pas fans de Star Wars, mais qui, pour me faire plaisir, ont fait une surprise et ont fait un peu des folies, quoi. Donc je les remercie encore.
C'est très joli.
Voilà. Écoute, on a assez parlé de nous maintenant.
Ouais.
On va parler un peu de nos auditeurs qui nous ont gentiment laissé en commentaire leurs plus belles pièces. Mmh. Alors, on va commencer avec notre collègue Sylvain Morgan qui nous dit, voilà, l'une des plus belles pièces de ma collection, c'est un livre audio pour enfants. Mon oncle me l'a offert après un voyage aux États-Unis où il l'a trouvé dans une brocante. On sent qu'il a vécu, qu'il a été retapé. Il fait partie de la collection d'une bibliothèque municipale. Mais voilà, c'est une pièce géniale. Et je suis sûr que Raphaël ne l'a pas celui-ci. Alors Raphaël, est-ce que tu l'as ?
Oui, je l'ai.
Tu l'as ?
Oui, je l'ai, hélas.
Bah, désolé.
Mais bon, pour Sylvain, c'est au moins quelque chose qui est à son niveau. Au niveau 3e, il peut 3 ans, il peut comprendre parce qu'il a des problèmes avec certains termes. Il critique mon Star Wars avec le R. Mais je pense que pour un homme comme lui, je crois qu'il peut assimiler, comprendre assez bien l'histoire comme ça, pour Sylvain.
Mais en tout cas, voilà, donc pour vous décrire la pièce, hein, c'est vraiment à...
Ouais, c'est à 33 tours, à 45 tours,
ouais,
c'est ça.
Ouais, c'est ça, et la couverture
c'est Paturel
est toute défoncée,
parole,
c'est ça qui est cool, ouais. La couverture est toute défoncée, il y a le code barre sur la tête de C3PO, parce que c'est C3PO et R2D2 en couverture, l'étoile noire est derrière, est à l'envers... Mais c'est ça qui fait le charme de ces pièces un peu vintage.
Tout à fait.
Je comprends tout à fait Sylvain.
Mais Sylvain elle a bien raison. Pour moi, c'est ce genre de pièce, voilà.
Donc,
on peut pas mettre de valeur dessus parce que l'histoire est plus intéressante que le prix ou que le produit en lui-même.
Mm. Voilà. Ensuite,
je voulais parler de Boba Fred à mon tour. Ouais. Boba Fred, c'est quelqu'un que je connais depuis des années. On s'est vu sur plusieurs salons. Boba Fred, pour la petite histoire, j'ai vu une des plus belles collections dans une chambre d'hôtel grâce à cet homme, voilà, de blisters et de produits AFA. Alors, je n'irai pas plus loin dans les débats sur ce que j'ai vu, parce que je pense qu'il y a des endroits qu'il faut rester assez mystérieux. Mais célébration 1 Europe, chambre d'hôtel, quand j'ai vu ce qui est parti devant moi en blister et en AFA, à l'époque chez Brian Toys, c'est la plus belle chose que j'ai vue. Bon, pour revenir à ça, Boba Fred, lui aussi, collectionne. Et Boba Fett, il s'est fait faire à l'époque une tête de Yoda et de Watu. Alors, elles ont plus de 10 ans, elles ont été faites par Gizmo. Alors, Gizmo, à l'époque, c'était un artiste français qu'on voyait souvent sur le forum Meeting Box. C'était la belle époque du forum. Et il faisait sur commande certaines pièces à l'échelle 1. Et je peux vous dire que pour avoir vu ces pièces, d'accord, avec la qualité du travail et la qualité de tout, il y a aussi bien des moindres détails, que ce soit pour les poils, les choses comme ça, qui sont des trucs de poils de chien recollés, tout ça, d'une qualité incroyable, je peux comprendre que c'est le rappel de bons souvenirs et c'est aussi la belle époque du forum. Voilà, mais je comprends Boba Fred sur ce coup-là.
Ouais, j'ai les pieds sous les yeux, donc c'est vraiment le bus, moi c'est le bus de Yoda que je trouve magnifique avec un regard,
je pense
que... J'ai pas vu... Enfin, il y a des Yoda Sideshow, je crois, qui existent en taille 1.
Oui.
Et ils sont très très loin d'arriver à la version que Boba Fred a, quoi.
Parce que même les petits poils au niveau des oreilles, c'est d'une qualité incroyable. C'est des vrais poils.
Le regard, l'expression, la texture, la couleur, la peinture, ils surpassent en tout point le Sideshow, quoi. C'est vraiment impressionnant, quoi.
C'est vraiment une très belle pièce. On avait qui encore ?
Alors ensuite, on a David... Vekemans qui nous dit difficile de classer entre deux pièces de la collection, la première est le R2D2 Atacus reçu de mes parents il y a un lointain Noël.
Ouais, 2001.
C'est une première statue de ma collection et une vraie surprise inattendue lors de l'ouverture du cadeau. Alors ça, tu vois David, c'est exactement ce que j'ai ressenti avec mon Dark Vador 1 Atacus à Noël aussi, donc pour le coup c'est à peu près la même histoire et du coup je comprends d'autant plus que ce soit une de tes pièces préférées. Et ensuite, tu nous dis que c'est le Foucault Millennium Lego UCS, mais la première version, une édition limitée, qui, même si elle est moins belle que la nouvelle, cette version reste à mes yeux une pièce incontournable. Effectivement, voilà, ça reste un très 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 beau Faucon, hein, le premier UCS, qui a une première qui a connu maintenant la deuxième génération, mais il y a du charme de voir les anciens Lego aussi, je trouve, de voir comment c'était conçu à l'époque. Et comment ça a évolué, et voilà. Moi, il n'a pas à rougir de la nouvelle version.
À mon tour,
ouais.
Moi j'avais Avril, Kevin.
Alors c'est Kevin Avril.
Kevin Avril, ouais. D'accord.
C'est à l'envers.
À l'envers, parce que moi j'ai Avril Kevin sur ma feuille.
Ouais.
Voilà. Ah, mais en plus, il y a Paul Bragard qui m'envoie des messages. Il manquait plus que ça.
Attends, Paul, on en parlera à la fin. Ce sera le
bonus.
On en parlera
à la fin. Ce sera spécial bonus pour Paul. Il tient également lui beaucoup à ce droïde, un bébé qu'il a baptisé Foron, 4 Rom, en hommage à Adria. Alors Adria, c'est une personne qui fait des répliques à l'échelle 1.
C'est un props maker, Adrien Caron.
Ouais, bon, Adrien Caron, c'est ça, que vous retrouvez sur internet, qui lui fait des répliques à l'échelle 1 d'objets de Star Wars ou d'autres univers. Ce bébé, j'avais déjà vu alors moi je dis bébé 8 volontairement parce que c'est la forme du bébé 8, même si c'est pas les couleurs du bébé 8. Parce qu'il avait fait différents modèles pour célébration Essen, je crois. Et puis une célébration aussi en Angleterre. En Angleterre, c'est ça, où il avait fait un BB-8 aux couleurs anglaises. Je comprends Avril, Kevin, quand il dit que c'est une belle pièce, que franchement, la pièce est très belle. Franchement, moi, je vais vous le dire, je l'ai aussi, d'accord. Mais en version BB-8, que Adrien m'a fait aussi. Et je comprends, parce qu'en fait, c'est une pièce qui reste vraiment impressionnante, qui est à l'échelle 1. Et tout le monde la comprend cette pièce.
Et qui est unique parce que pour le coup c'est un personnage qui n'existe pas, qui est inventé en fait.
Ouais. Mais ce qui est bien, tu vois, c'est que d'avoir une pièce comme ça, c'est les pièces que les gens comprennent. Ils ont vu un bébé 8, tu vois. Et quand t'as ça dans un salon à l'échelle 1, les gens disent ah, c'est Star Wars. Voilà. Alors que si tu leur mets un sabre laser de Star Wars, les originaux, quoi, ceux qui sont faits avec les Graflex, les gens ne voient pas ce que c'est un sabre laser, parce qu'ils ne l'ont jamais vu en vrai. Puis quand il dit oh, c'est bien gros, t'en es sûr que c'est le vrai, ils se rendent pas compte de la matière en tech, et la masse que ça représente. Alors que BB-8, ça transpire. Et je comprends Kevin quand il dit que c'est une belle pièce, que franchement, non seulement c'est une belle pièce, Adrien a du talent, donc je comprends son choix aussi, la belle histoire qui va avec.
Ensuite, on enchaîne avec Louis, alors MNTR, je suppose que ça se prononce pas comme ça, c'est un pseudo, qui nous dit pour ma part, deux pièces. La première, le Luke pilote Atacus pour sa valeur sentimentale car il s'agit d'un cadeau familial. Alors j'ai l'impression que Atacus, beaucoup de gens offraient ça dans les familles, hein. Ça se voit entre toutes les histoires qu'on a à propos d'Atacus.
Oh ouais, c'était les pièces onéreuses à l'époque.
Hein, c'était plus cher qu'il existait à l'époque.
C'est pas ça, c'est la première fois qu'une pièce aussi chère sortait,
ouais.
D'accord, à cette époque-là, donc 2000 avec l'épisode 1, en même temps que le vaisseau de la reine Amidala qui coûtait entre 800 et 1000 euros à l'époque. Ouais. C'était les pièces les plus chères qui sortaient.
C'est ça.
Et il fallait sortir ce que les gens. Mais c'était et en même temps, ce qui allait bien, parce qu'en même temps, Atacus sortait aussi les taxis de 5e élément à la même époque. Donc les gens comprenaient. Voilà. Ouais. Comprenaient les produits.
Et il nous dit le deuxième, c'est le bus de Boba Fett Gentle Giant, première version que j'ai guetté longtemps, car pas les finances sont beau moment ou à des prix trop hauts pour ma bourse. Sur eBay, forum, il y en a à peu près. Bingo, il y a un an à peu près, bingo, il a enfin rejoint la bande des Bounty Hunters. Comme quoi, tout vient à point, qui sait attendre. Place au suivant. Ouais. Alors là, écoute, Louis, je ne peux que te plus soyer. Parce qu'avec Raphaël, à la fin, on voulait faire un peu les mentions honorables qu'on a citées de nos collections. Et j'allais citer aussi le buste Boba Fett, Gentle Giant, première génération. Parce que, même si aujourd'hui, Gentle Giant, ce n'est plus que l'ombre d'eux-mêmes, hein, mais à l'époque, c'était le top du top aussi au niveau des bustes. Et moi, ce buste de Boba Fett, je le trouvais sublime. Mais comme toi, à l'époque, je n'avais pas les moyens, ou alors j'étais plus sur Atacus. Et je me suis dit, ce buste de Boba Fett, il est sublime. Et en fait, il est hors de question que je commence une collection Gentle Giant si je n'ai pas ce buste. Donc en fait, c'est soit je l'ai, c'est mon premier buste Gentle Giant et après je commence la collection, soit je ne l'ai pas et je n'achèterai aucun buste Gentle Giant. Et là je remercie, à l'époque c'était sur le forum d'Anakin Web, mon ami Alexandre, dont le pseudo c'était Lixikit, qui m'avait trouvé sur internet ce buste pour à l'époque 140 euros. Alors c'était deux fois plus cher déjà que son prix initial de sortie, parce que moi je l'ai acquéri en 2004, il me semble. Et ça a été déjà quelques années après sa sortie. Hein. Je crois qu'il est sorti en 2002. Parce que oui, Boba Fett, le premier Boba Fett, c'est le premier personnage de la trilogie originale qui est sorti en buste Gentle Giant. Et c'était le premier qui avait un bras aussi. Grande première.
Ouais.
C'est le premier qui avait un bras.
Et c'est le seul produit qui n'a pas décoté.
C'est ça.
En plus.
Et c'est le plus beau. Enfin, c'est simple, hein. C'est un des premiers bustes Gentle Giant, et à l'heure actuelle, c'est toujours le plus beau.
Ouais.
Et je le trouve magnifique. Et cette pièce-là, voilà, moi, je suis toujours ébahi devant la pose, en fait. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes les détails, les finitions, tu te dis, ah, c'est vrai que, par exemple, là, je compare encore Hot Toys, mais Cloud Toys est bien plus détaillé, bien mieux proportionné, mais à l'époque, c'était clairement la plus belle pièce de Boba Fett. La pose est pour un buste était parfaite. En fait, il tenait son fusil d'une manière tellement badass. Il avait la tête un peu penchée en mode, mais je suis prêt à te donner un coup de blaster à tout moment. Et c'était vraiment, enfin, voilà, cette pièce est magnifique. Et Louis, je ne peux que comprendre que tu la mettes dans ton top parce que c'est vraiment une pièce sublime. Et c'était à l'époque où Gentle Giant savait faire de belles choses. Voilà, à des prix raisonnables. Ce qui n'est plus le cas, hélas.
Et là, c'est la souris.
Voilà.
Et puis pour revenir sur l'Atacus, le X-Wing pilote est très joli aussi.
Oui.
Une très belle pièce, ouais. Ouais.
C'était le premier personnage humain sans casque d'Atacus.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Moi, ton tour, Raphaël.
Alors, comme je suis en train de faire les choses qu'il ne faut pas faire devant un écran, c'est-à-dire poser son pied sur et arracher son casque et perdre la connexion, donc je recherche les liens que m'a donné mon camarade.
Eh ben écoute, pendant que tu cherches, si tu veux, je continue.
T'en feras deux à la suite.
Alors après, de la suite. On a Jérémy Défense qui nous dit « Mon Graal est une cassette audio de la Guerre des Étoiles reçue peu de temps après avoir vu l'aventure des Ewoks en 1984 au cinéma, mon premier contact avec l'univers Star Wars. Je me souviens d'avoir supplié mes parents de m'offrir cette cassette depuis Star Wars ne m'a jamais plus quitté. J'ai une affection particulière pour cette cassette qui représente toutes ces années de passion pour Star Wars. » Et c'est vrai que la cassette, et c'est un peu comme l'objet de Sylvain, c'est-à-dire que voilà,
c'est ce type d'objet qui, aujourd'hui, je pense, ne valent pas un clou, mais qui ont une valeur sentimentale et nostalgique incomparable. C'est ces pièces-là qui sont liées vraiment à notre enfance, à nos premiers souvenirs avec Star Wars, et qu'on chérit plus que tout, quoi. Et la jaquette aujourd'hui est hyper vintage, hyper. Enfin, moi j'adore tout ce qui est vintage. Et voilà, donc on a C-3PO et R2-D2 sur Tatooine, où c'est écrit l'histoire de la guerre des étoiles, hein, et pas Star Wars, parce qu'à l'époque on disait pas Star Wars, on traduisait tout, hein, comme nos amis québécois. Donc c'était bien la guerre des étoiles. Et voilà, je trouve ça un objet très très sympa. Et merci Jérémy d'avoir pris la photo.
Alors à mon tour, je vais parler de Loïc Kinney. Donc c'est une personne que j'apprécie absolument pas, autant le dire, quoi, au sein des héritiers de la Force, parce que j'aime pas le rugby et il le sait. Voilà, c'est dit. Au moins c'est balancé, comme ça on sera au courant de ces choses-là. Loïc, si tu m'entends. Alors Loïc, lui, sa collection préférée, c'est son Dual Pack Hasbro. Alors comme il est fan des pilotes et des romans et comics Rod,
Rod.
Pour lui, il dit, vu le nombre de T's qui sont fait dégommer, ce pack avec le Baron. Alors le Baron. Fell Derek Hobby, c'est ça, avec Clivian, et un comic était fait pour moi. Mention spéciale à Fit, car ce n'était pas mon avatar sur le forum, car ce comic pack vient d'une époque où les produits dérivés de l'univers étendu n'étaient pas Légion. C'est vrai que c'était pas Légion, et ça ne l'est toujours pas. Alors il y avait le manga, c'est dans sa boîte, donc au meeting box comme on dit, neuf dans sa boîte, et tous les comics, lorsque j'ai acquis ce qui était un bel objet, et il montre sa vitrine, et c'est vrai qu'en regardant sa vitrine, on rend compte qu'il y a beaucoup de tutis, pilote, d'accord, donc ça vient aussi bien du Lego que du Hasbro, que ouais, il y a tout, il y a plein de TIE Fighter, voilà, c'est ces personnages mythiques comme toujours, qu'on voit pas longtemps dans le film mais qui marquent leur époque, par rapport au charisme qu'ils dégageaient avec les comme dit, les tuyaux d'aspirateur sur le côté. Pour moi c'est un très beau personnage, le TIE Fighter. Chez Atacus aussi il existe, donc bravo à Loïc pour ce choix là
voilà. Alors moi j'ai acheté le même pack que Loïc, mais c'était plus pour avoir le pilote rebelle que pour le pilote de TIE Fighter.
Et toi, qu'est-ce que t'en penses?
Bah, ce que je disais, c'est que ce pack je l'ai acheté. Sauf que moi, contrairement à Loïc, moi je l'ai déballé. Et je l'ai plus acheté pour avoir le pilote rebelle que pour avoir le pilote TIE qui était le Baron de Fell. Voilà, c'est le Baron Fell. Et le pilote de X-Wing qui était Obi Clivian, qui est en fait plus un pilote de Snowspeeder parce qu'on le voit dans l'Empire Contre-Attaque. Voilà. Alors, maintenant c'est Arnaud Henry qui nous dit, voilà, mon Graal, ma collection de Micro Machines Star Wars que j'ai eu à l'époque lorsque j'étais enfant, et notamment l'étoile noire, malheureusement, ce ne sont pas ceux de mon enfance, mais je les retrouve tous petit à petit. Alors Arnaud, moi je l'ai eu, cette étoile noire qui s'ouvre
ouais, moi aussi, je l'ai.
En décor de Tatooine et tout.
Ouais, génial.
Alors, autant le concept est génial, autant en fait, t'avais pas beaucoup de personnages et de vaisseaux fournis avec, Si t'avais que ça, ça faisait des décors assez vides en fait.
Ouais, puis je crois que mon chien à l'époque les a mangés, mes petits personnages.
Voilà, donc petit. Moi j'ai tous perdu les petits personnages, ouais, du coup j'ai plus que l'étoile noire, mais le concept était très sympa, mais en fait fallait vraiment s'acheter tous les petits personnages Micro Machines autour et tous les vaisseaux qui allaient autour pour vraiment avoir un truc assez sympa, quoi. Mais après le concept de l'étoile noire qui se transforme en décor comme ça, c'était du jamais vu. C'était en 97, il me semble, c'est sorti au moment de l'édition spéciale. Et après, concernant tout ce qui est de retrouver les jouets de son enfance qu'on n'a pas pu avoir à l'époque et les retrouver petit à petit, là encore une fois, je te comprends très bien, parce que moi je fais ça aussi, je fais pas ça avec les micro-machines, mais je fais ça avec les figurines Hasbro de 95, les Musclor, voilà, on les appelle comme ça, parce que je les ai mais déballées et elles ont vécu une vie de jouet, donc elles sont un peu abîmées, mais voilà, j'essaie de toutes les retrouver, mais je les laisse emballer, voilà. Et heureusement c'est une collection qui a pas pris de valeur avec le temps et qu'on retrouve facilement entre 5 et 10 euros dans les conventions, voilà.
C'était pour moi aussi cette étoile noire qu'on dépliait avec les petits personnages, puis tu découvrais plein d'actions à faire dessus. Je trouve ça assez
comique. Il y avait un truc très morbide. Ouais. C'est qu'en fait, il y avait une partie du sol où c'était le sable et tu tournais et t'avais les deux squelettes de Owen et Beru.
Ouais, c'est ce que je me souviens de ça.
C'était un peu gore.
Mais à l'époque, hein, c'était comme ça. Hein.
Ouais. T'as pu ça aujourd'hui.
Bon, on termine par qui?
On a Joanne Guérin.
Voilà. Pour moi, mon Graal sont mes dédicaces de Carrie Fisher, même s'il ne l'a jamais rencontré. Moi, je l'ai rencontré, mais je comprends qu'il peut avoir. Ma toute première dédicace, Vador, et mon Vador Vintage Kenner 12, même si ce n'est pas le mien d'époque, malheureusement. Alors, comme je dis, on ne cherche pas non plus à ressortir. L'important, ce n'est pas d'avoir le produit depuis 30 ou 40 ans. C'est le produit qu'on peut acheter maintenant qu'on ne pouvait pas acheter à une époque, d'accord, qui fait que... Et d'avoir une dédicace de Carrie Fisher, c'est aussi marquer l'histoire. C'est-à-dire que pour moi, c'est aussi immortaliser une partie de Star Wars chez soi, quoi. C'est que Carrie Fisher a laissé son empreinte, que tu as chez toi, et tu sais que c'est elle qui te le crayon. Donc derrière, tu t'imaginais plein de choses, qu'elle a fait ça à un endroit bien particulier, qu'elle a réellement... On peut s'imaginer plein de choses derrière. Moi, ce que j'aime bien dans ces dédicaces, c'est de raconter l'histoire que tu veux derrière. Voilà.
Voilà. Et t'as très bien décrit les dédicaces, parce qu'il y a pour beaucoup de gens, les dédicaces, c'est juste un gribouillis qu'on paye et ils comprennent pas. Mais voilà, pour moi, c'est... Ben, en fait, t'as une partie de l'histoire de Star Wars chez toi. C'est comme ça que je vois les choses, quoi.
Ouais, puis la rencontre, la quête pour l'avoir et compagnie, et tout ce qu'il y a autour, par rapport autour de la dédicace, t'as pu attendre 5 heures dans un bus, sous la pluie, ou à la gare, ou voilà. T'as fait la queue pendant 12 heures, et puis il y a encore 5 heures à attendre, voilà.
T'as quelque chose chez toi qui a été immortalisé par l'acteur du film.
Ouais.
Et puis, ça, c'est génial.
Et puis, pour revenir sur Vador, je pense que Vador, aujourd'hui, Dark Vador en tant que tel, donc Dave Prouse, pas reconnu sa juste valeur par rapport au conflit qu'il a pu avoir avec Lucas au fin de sa carrière. Mais je pense que dans quelques années, ceux qui ne l'auront pas eu, donc beaucoup d'Américains, leur regretteront de ne pas l'avoir, cette dédicace Dark Vador, je pense, dans les années à venir. Voilà. Même s'ils essayent de rattraper en disant ça entre d'autres personnages secondaires qui ont fait un truc, mais Dave Prouse a toujours été Dark Vador, voilà, dans l'historique. Donc je pense que la dédicace est aussi importante pour nous, Européens, parce qu'on sait pertinemment qu'on les... Moi, j'en ai une dizaine Dark Vador, parce que j'ai pu le voir... plusieurs fois, régulièrement à une convention à Mâcon, on passait un moment ensemble, on mangeait ensemble et tout, donc j'en ai des tonnes et des tonnes, tout à mon nom, pour pas qu'on puisse les refourguer, comme je disais. Et je pense que dans quelques années, malheureusement, on sait qu'il va nous quitter pour d'autres étoiles ou d'autres planètes. Et je pense que Dark Vador est, pour moi, une belle dédicace, que c'est quand même, il a quand même marqué, quoi. C'est quand même le méchant, quoi. On sait, le méchant bon, ou le bon méchant, je sais pas comment on pourrait dire. Voilà.
Et on va finir avec un immense troll de notre ami Paul Bragard.
Ouf,
qui nous poste sa photo de la peluche du Lot Wolf de Rebels, qui s'est procuré à Célébration Chicago avec ce petit commentaire: les vrais savent. Et ben écoute Paul, ben voilà, ben j'étais avec toi à ce moment-là, donc tu sais bien ce que je sais. Pour la petite histoire, Paul de My Teen Box, à chaque fois qu'on fait des célébrations, c'est le roi pour récupérer plein de cochonneries qui finissent dans des cartons, qui ne seront jamais exposés. Et Paul, il aime bien les loups, comme Dave Filoni. Et la peluche du Lot Wolf était parmi les exclus du shop de Célébration.
Ouais.
Et je crois d'ailleurs que c'est nos amis québécois, Fabien, Dany et Sébastien, qui avaient fait la queue pendant des heures et des heures... le premier jour de la célébration à Chicago et qui a fait un peu les courses pour tout le monde. Donc on les remercie encore. 5 mois plus tard, je les remercie encore parce que j'ai toujours ma lunchbox, hein, concernant. Et Paul avait fait la commande de ce Lot Wolf. Et quand on l'a vu, on s'est tous dit: t'es sérieux, Paul? Tu voulais vraiment acheter ce truc de merde, quoi? C'est un loup blanc, quoi. C'est un loup blanc. C'est vraiment un loup blanc, quoi.
C'est pas une merde. C'est un chien.
C'est mal fait. C'est pas joli. et pour même dire, ils ont même fait les poils pubiens du loup à l'entrejambe. Pour vous dire le mauvais goût du truc. Et quelques semaines, enfin quelques jours avant de partir, Paul s'est rendu compte aussi que ce serait assez compliqué. De ramener dans sa valise tout ce qu'il a acheté sur place, dont le Lot Wolf, c'était assez compliqué. Mais bon, je veux pas épiloguer là-dessus parce qu'avec ses bagages, il avait eu des problèmes déjà à l'arrivée et tout. Bon, bref, c'était un bazar sans nom pour ramener ce Lot Wolf en France. Et quelques semaines plus tard, il nous a dit: ouais, vous aviez raison, parce que franchement, je sais pas comment faire de ce truc. Donc voilà, Paul le roi pour acheter des trucs inutiles et qui veut refourguer derrière, mais voilà.
Non, mais pourtant il a bon goût, hein, de façon générale. Hein. Mais je sais pas pour les prodeurs. Voilà.
Paul, je te propose de faire gagner Slot Wolf à une tombola ou à une loterie AQC. Voilà.
Ah, mais personne va acheter des bulletins. Si,
mais personne n'en voudra.
Imagine-toi, c'est moche. Imagine-toi, je la gagne. Ou tu la gagnes.
Eh ben, ce sera la mascotte des teams célébration entre Planet Star Wars, Star Wars en direct et Made in Box. Voilà.
Ouais, c'est ça.
Puisque voilà. C'est lié un peu à tout ça, quoi. L'historique.
Tout à fait.
C'est mais ça, voilà. Je veux dire. C'est une pièce nulle qui a une belle histoire, par contre.
Ouais, c'est les histoires qui sont intéressantes pour ces produits-là. Ouais.
Voilà. Écoute, Raphaël, avant de conclure cette émission, on va aussi mentionner quelques vite rapidement
quelques pièces qu'on a, de notre collection qu'on affectionne particulièrement, qu'on n'a pas eu le temps de mentionner, qui méritent aussi un peu leur place dans nos plus belles pièces. Donc ouais, je te laisse commencer.
Mon Dubac de Sideshow, par exemple, avec le Stormtrooper dessus, qui est pour moi une belle pièce aussi, qui me raconte beaucoup d'histoires, parce qu'en fait, c'est un achat que j'ai fait dans un ancien magasin qui s'appelait à l'époque Jawa Store, où le mec était une perle, avait des pièces de toute beauté, et c'est le sien perso qui m'a gentiment vendu, parce qu'il ne voulait pas le vendre à personne qu'à moi, entre revendeurs de magasins à l'époque. Donc j'ai son Jawa, c'est Jawa Store, j'ai la pièce de Jawa Store chez moi. Donc voilà, j'ai parlé de pièces, j'ai parlé aussi d'Outratacus, hein, c'est ce que tout le monde fait, hein. Le Dark Vador 1, toutes ces pièces-là qui sont l'époque où j'avais mon magasin, donc j'ai beaucoup de souvenirs avec toutes ces pièces-là. J'ai parlé de toutes mes cartes blister qui parfois ont été achetées par pur hasard, dire franchement, je suis tombé sur des coups, comme quoi il faut toujours être à l'affût mais savoir attendre, parce que les choses se font avec le temps. Donc par exemple, je sais qu'il y a 2 ou 3 cartes que j'ai toujours pas, que je pourrais acheter. Financièrement, je mets l'argent de côté, je me l'achète. Mais j'ai pas envie en fait. J'ai envie d'avoir l'opportunité et l'histoire à raconter derrière, plutôt que l'acheter sur eBay ou sur des sites marchands spécialisés qui ont les cartes que je veux sans trop de difficultés. Donc j'ai envie de vivre encore d'autres histoires. Voilà. C'est ce que je dis, c'est que les conventions font vivre des belles histoires qui ne tournent pas obligatoirement autour de la décadence qu'on peut s'imaginer, mais surtout autour des gens, des histoires qu'ils racontent et ce qu'ils amènent avec eux. Et c'est vraiment agréable, ce qu'on dit toujours sur les conventions, c'est les choses qu'on ne retrouve pas à travers les forums ou à travers les choses comme ça. Voilà.
Mais après, concernant voilà, mes pièces préférées, c'est toutes mes hot toys, c'est toutes mes dédicaces et mes Attacus, voilà, mais c'est... Toutes ces pièces n'ont pas forcément de belles histoires. Alors, je vais vous citer 2 autres pièces que j'apprécie beaucoup, qui ont une histoire sympa. On n'a jamais cité Hasbro dans les plus belles pièces, enfin, pas beaucoup dans l'émission, mais ma figurine Hasbro préférée, à l'échelle 10 cm, assez étonnamment, ce n'est pas un Han Solo, c'est le Boba Fett 300e, qui a été la 300e figurine sortie en blister simple Kenner Hasbro, qui est sorti en 2002, il me semble, ouais, en 2002. Et elle était sortie, du coup, c'est Boba Fett dans la Cité des Nuages, qui est vraiment une position en train de tirer assez dynamique, et qui était, du coup, vendue dans une boîte fenêtre qui reprenait le décor de la piste d'atterrissage du Slave One, où c'était écrit en gros Boba Fett 300e. Et cette figurine, je l'ai achetée 3 fois au final, mais pas 3 fois d'affilée. Je l'ai achetée une première fois, moi je déballais tout, donc je l'ai déballé et je la trouve magnifique. Aujourd'hui, c'est pour moi encore la plus belle figurine Hasbro à cette échelle, même des années plus tard, quoi. Ils ont pas fait mieux. Je l'avais rachetée, je l'ai laissée emballer pour la faire signer par Jeremy Bullock, donc j'ai cette version là, mais qui, avec le soleil, la couleur a un peu déteinte, donc je l'ai rangé maintenant dans un placard pour pas que ça s'abîme plus. Et je l'avais racheté une 3e fois il y a 2 ans en loose, parce qu'en fait, vu que j'habite à Paris et que 90% de mes figurines 10 cm sont chez mes parents à Soissons, je la voulais aussi à Paris, donc du coup je l'ai acheté pour avoir une version à Paris. Voilà, c'est pour moi la plus belle figurine qu'Hasbro ait fait aujourd'hui à l'échelle 10 cm. Et l'autre pièce de ma collection, qui est toute défoncée, qui est sortie en 97, ou même peut-être même plus tôt que ça, peut-être en 95-96, c'est mon album Panini d'autocollants de la trilogie originale. Je me souviens d'avoir acheté ça, j'étais en primaire et tous les week-ends, tous les dimanches, mes parents et mes grands-parents me donnaient quelques pièces pour passer chez le marchand de journaux, m'acheter mes autocollants Panini.
Ouais.
Et j'ai l'album complet, il m'en manque juste une en fait. Voilà, c'est le numéro 15. Voilà, pour ceux qui veulent, le numéro 15 qui représente Dark Vador et Leia lors de l'interrogatoire dans l'Étoile de la Mort. Voilà. Et aujourd'hui, je l'ai encore, mais il est défoncé de chez défoncé. Il y a du scotch partout pour que ça tienne et tout, mais le papier se déchire. Mais j'ai une immense. J'accorde une immense valeur nostalgique à cet album Panini. Voilà. Je l'aime beaucoup. Eh bien, écoute, Raphaël.
Ouais.
Je pense qu'on a fait un peu le tour de nos le Graal de nos auditeurs.
Oui.
Je pense qu'on peut faire une prochaine émission sur peut-être les pires pièces de notre collection ou les pièces de collection qu'on a peut-être regretté d'acheter.
Tiens, pourquoi pas les pires qu'on regrette d'acheter.
Ouais. Voilà, ceux qu'on regrette d'avoir acheté.
Un bon thème.
Il y en a,
bien sûr, j'en ai.
Voilà.
J'en ai.
Ce sera d'autres histoires, un peu plus rigolotes.
Ouais.
Mais voilà. Eh bien, écoute, comment on peut te rejoindre, Raphaël ?
Alors, vous pouvez me rejoindre tout simplement sur Facebook, Raphaël Gounou, tout simplement, ou sur envoyer des emails si vous voulez qu'on échange, raphaël71@meetingbox.net. Mais bon, sur Facebook, vous mettez des messages et puis je réponds tout le temps. Et quand vous allez sur le meetingbox de. Pardon, le Facebook de Star Wars en direct, je réponds à tous les posts qui sont suite à nos débats.
Ouais.
Donc voilà.
Moi, avant de dire comment on peut se rejoindre, j'ai oublié dans mon histoire avec la dédicace que ma chérie m'a offert qu'elle a reçu l'aide de Nicolas, que je salue, et sans lui, ma chérie n'aurait pas pu réussir à la voir. Donc merci Nicolas, si tu nous écoutes, pour avoir aidé ma Camille à trouver tout ça. Et vous pouvez me rejoindre sur Planète Star Wars, sur mon compte Instagram StormySeb, et sur Facebook, voilà, tout simplement. Voilà. Je vais remercier nos partenaires avant de nous quitter, à savoir siteclan.net, planetstarwars.com, mightinbox.net, starwarsuniverse.com, starwarsolenet.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show et Star Génération Star Wars et Science Fiction. Voilà. Et bien, de la part de Raphaël et moi-même, très bonne journée, très bonne soirée, et que la force soit avec vous.